mimétiquement vôtre, Voir le monde avec René Girard.
Une émission proposée par Jean-Louis Salasque. Bonjour aux auditeurs. Bonjour Jean-Louis.
Bonjour Catherine.
Je crois que cette semaine, il va être question de musique. Est-ce à dire que nous quittons René Girard ?
Pas du tout. Nous allons simplement constater que les relations entre deux grands musiciens, Joseph Haydn et Ludwig van Beethoven, illustrent parfaitement l'anthropologie de René Girard, ainsi que le mélange complexe de fidélité et de concurrence qui peut s'instaurer entre maître et disciple sous l'effet du mimétisme.
Peux-tu nous resituer ces deux musiciens ?
Beethoven était né à Bonn en 1770 et il mourut à Vienne en 1827. Il était l'homme de tous les contrastes, un caractère ombrageux et tourmenté dont le testament musical est cependant une ode à la joie. Un enfant battu, mais en même temps un enfant prodige. Une vie sentimentale mystérieuse, un musicien grand public avec la 5e symphonie, mais parfois ésotérique avec la grande fugue. Un esprit révolutionnaire et un ami de l'aristocratie, la gloire et la misanthropie. Haydn était né 38 ans plus tôt, en 1732, à Rorau, en Hongrie, et il mourut lui aussi à Vienne, en 1809. Il est aux antipodes de Beethoven, un tempérament optimiste et ironique, flexible dans la forme mais solide sur le fond, une puissance de travail phénoménale. Il est le recordman absolu de tous les compositeurs, avec entre autres 104 symphonies. Il est célébré dans l'Europe entière, mais il accueille cette gloire avec humour et modestie.
Dans quelles circonstances se rencontre-t-il ?
Fin 1792, le comte Waldstein joue le rôle de protecteur et de mécène à l'égard du jeune Beethoven, dont les dons se sont déjà manifestés. Le comte décide de l'envoyer à Vienne pour prendre des leçons auprès de Joseph Haydn. Celui-ci est le plus grand musicien vivant depuis la mort de Mozart. Haydn décèle le génie chez Beethoven et lui pressent un grand avenir. Mais son année d'enseignement, 1793, sera une année de malentendus. Beethoven a encore besoin d'acquérir des rudiments, alors qu'Haydn a bien d'autres choses à lui apporter. Les deux hommes ne se comprennent pas, et Beethoven sollicite en cachette d'autres professeurs. Puis Haydn part 2 ans à Londres pour des tournées triomphales. Il revient à Vienne fin 1795 et retrouve en Beethoven non plus un élève, mais un confrère. Plusieurs concerts présentent conjointement des œuvres de Haydn et de Beethoven. À vrai dire, la notoriété du cadet tient surtout à son talent de pianiste. Mais en tant que compositeur, il s'inscrit dans le sillage de son aîné. Il lui présente des trios, il lui dédie ses premières sonates pour piano. La relation se détériore petit à petit. Les deux hommes deviennent concurrents. Avec des œuvres comme la sonate pathétique, les deux premiers concertos pour piano ou la première symphonie, Beethoven peut prétendre, dès 1798, au premier rang des compositeurs viennois. Las, Haydn écrit en 1799 l'oratorio La Création, qui va triompher dans l'Europe entière. Les tempéraments respectifs n'arrangent rien. Haydn est pétri d'humour, il surnomme son ancien élève le Grand Mogol, et Beethoven maîtrise mal son caractère farouche. Il commence également à souffrir d'acouphènes, et dès 1802, il comprend que sa surdité est irrémédiable. Après La Création, Haydn écrit un nouvel oratorio, Les Saisons. C'est encore un grand succès, mais le musicien est épuisé, sa carrière s'achève. Beethoven prend alors son essor et produit une série impressionnante de chefs-d'œuvre, symphonie héroïque, sonate appassionata, sonate à Kreutzer, etc. Les deux hommes se réconcilieront lors d'un concert en 1808, le dernier où paraissent Haydn. Beethoven porte son aîné, trop faible pour marcher, et le fait acclamer par toute la salle.
Cette concurrence est-elle le trait girardien de cette histoire ?
Tout cela ressemble à la figure classique de la théorie mimétique, celle du disciple qui devient le rival de son mentor. Pourtant, ici, rien ne colle. D'abord, Beethoven n'aura pris que 9 mois des leçons avec Haydn, et encore pour apprendre des bases pour lesquelles un génie comme Haydn est inutile. Un professeur de musique quelconque suffisait. C'est un peu court pour le rôle de disciple. Ensuite, étaient-ils vraiment rivaux ? Le doute nous vient, à entendre la musique de Haydn, constamment gai, optimiste et spirituel, à des années-lumière de la véhémence, du pathétique et de la puissance de celle de Beethoven. Et cependant, ils étaient bien la proie d'un phénomène de mimétisme. Nous devons aller plus en profondeur pour le saisir.
J'espère que ce n'est pas trop compliqué.
Au XVIIe siècle et au début du XVIIIe siècle, c'est en musique le règne du baroque. D'un point de vue technique, il se caractérise par un flux continu et homogène. Pour faire durer le plaisir né d'un air ou d'une mélodie, le compositeur les répète, les prolonge, les étire avec des variantes, mais sans trop s'écarter de ses caractéristiques. Il garde les mêmes instruments, les mêmes rythmes, des accords voisins. Écoutons un petit extrait de Vivaldi pour illustrer tout cela. Mais à partir de 1730, les musiciens veulent introduire des ruptures, des changements de climat, des surprises, des contrastes, des effets de suspens. Or, la technique baroque y est par nature impuissante, puisqu'elle repose sur la continuité. Le problème posé au compositeur est alors simple à formuler. Comment obtenir des œuvres cohérentes tout en y introduisant des ruptures et des contrastes? Pendant quelques décennies, ils achoppent. Les fils de Bach, par exemple, produisent des œuvres certes sympathiques, mais dénuées d'unité et de cohérence architecturale. C'est Haydn qui va trouver la solution. Pour la comprendre, nous pouvons faire une analogie avec l'ADN. Haydn fait dériver toutes les parties du discours musical d'un petit groupe de notes bien caractérisé. Ces quelques notes vont assurer l'unité du morceau, elles seront son ADN. Énoncer des mélodies, transitions, changements de climat, basses, accompagnement, moment de suspens, crescendo, etc., le compositeur peut désormais introduire toute la variété qu'il souhaite, à condition que chaque partie garde un lien avec le petit groupe de notes.
Peux-tu nous donner des exemples ?
Voici le groupe de notes que Haydn retient comme ADN du premier mouvement de sa 39e symphonie. Voilà ce que cela donne. Haydn a composé cette symphonie en 1768. 40 ans plus tard, Beethoven utilise le même procédé dans sa 5e symphonie. Le motif qui sert d'ADN est le célèbre pom-pom-pom-pom. Voici le début de la symphonie. Thank you. Dans les deux cas, chez Haydn comme chez Beethoven, c'est la même technique. Nous entendons des arrêts, des contrastes, des changements de sonorité, mais absolument tout dérive d'une même formule de quelques notes. Elle est l'ADN du morceau. C'est ici que se trouve l'effet de mimétisme de Beethoven à l'égard de Haydn. Et il l'a apprise de lui, par l'exemple de son travail. En 1793, Haydn avait en chantier ses grandes symphonies, dites londoniennes, en particulier la symphonie numéro 99. Les spécialistes pensent que Beethoven a suivi de très près la composition de cette œuvre. Haydn lui en a plus tard offert le manuscrit. À la mort de Beethoven, ses papiers contenaient non seulement ce manuscrit, mais aussi deux copies qu'il en avait réalisées de sa main. De telles copies n'ont pas d'autre sens que d'étudier l'œuvre. Beethoven aura eu du mal à saisir cette technique. À la fin de sa vie, il disait « Quand j'étais jeune, j'étais fou. Je mettais dans un seul morceau de quoi en composer 20. » Mais une fois cette technique ADN comprise et assimilée, Beethoven nous offrira l'extraordinaire floraison de la symphonie héroïque jusqu'à la 9e, des sonates au quatuor, etc., etc. Le mimétisme montre ici son côté lumineux. Le legs de Haydn à Beethoven aura été fructueux. Il s'agit d'un passage de témoin. Et à son tour, Beethoven servira de modèle à au moins deux générations de compositeurs. Berlioz, Schubert, Schumann, Liszt, Brahms, Wagner, Mahler.
Il ne nous reste plus qu'à réécouter des œuvres de Haydn et de Beethoven.
Pour notre plus grand plaisir. Au revoir Catherine.
Au revoir Jean-Louis. Et au revoir aux auditeurs.